Ajaccio.
Merci Marina. Nous sommes le lundi 6 mai, c'est l'anniversaire de Christian Clavier aujourd'hui, il fête ses 72 ans.
C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer.
Je suis malade.
Vous vous souvenez de ce film?
Ah bah oui.
Ah bah oui, Les Visiteurs.
Les Visiteurs.
Nuit. Jour.
Cartonné, hein.
Nuit. Jour.
Qui ne fait qu'un.
C'est un film qui a quoi, 30 ans, non?
Oui, oui. 93.
Mais c'est incroyable, c'est indémodable. Hein.
Ouais,
c'est partie
ouais.
De ces films qu'on prend plaisir à revoir. Vous écoutez RTL, il est 5h.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Le premier journal de votre matinée avec vous, Tom Lefebvre, et à la une de votre journal, Tom, des drones, des policiers. La reconstitution de la mort de Naël avait lieu hier à Nanterre.
La justice tente de comprendre comment le policier en est venu à tirer sur l'adolescent en juin dernier. Dans ce journal également, les lycéens qui à leur tour menacent de bloquer les établissements pour soutenir la cause palestinienne. Les coulisses de la visite en France du président chinois Xi Jinping, il est arrivé hier soir. Et puis des Toulousains heureux, qualifié en finale de la Champions Cup, la Coupe d'Europe de rugby. La question du jour sur RTL.fr, on vous demande si vous continuez à demander le ticket de caisse en version imprimée. Ce matin, vous dites oui à 72%.
Dans un quart d'heure, RTL événement, l'enquête de la rédaction, alors que s'ouvre le procès du double assassinat de l'aéroport de Bastia-Porreta, vous entendrez les confessions d'une gardienne de prison devenue complice de la mafia corse.
RTL Matin.
La reconstitution s'est donc achevée dans la soirée, 11 mois après la mort de Naël à Nanterre. La justice a donc voulu comprendre précisément les circonstances de la mort du jeune homme, tué, on le rappelle, par un tir de policier. La scène du drame a été rejouée minute par minute, Nicolas Burnan.
Oui, derrière des bâches dressées, la scène est rejouée à l'endroit exact du drame. Il y a les témoins, les passagers de la Mercedes jaune que conduisait Naël. Une reproduction a été amenée et les deux policiers cagoulés, équipés de gilets pare-balles. Le brigadier, auteur du tir mortel, répète les gestes effectués, les mots exacts prononcés ce jour-là. Nina, une riveraine, a vécu cette reconstitution fermée chez elle.
J'ai entendu un petit peu les bruits. Alors je ne savais pas si c'était un coup de feu ou un impact, mais c'est triste parce que c'est un petit garçon que je connaissais. Tous les jours, je vois les fleurs. Tous les jours, je pense à ce petit garçon et pour plus que ça ne se reproduise en tout cas. C'était un choc pour tous les Nantariens en tout cas.
Dans le ciel, un drone survole le quartier sous cloche, quadrillé par des dizaines de CRS. Des médiateurs de la ville vont à la rencontre des jeunes comme José pour apaiser d'éventuelles tensions. Il veut enfin connaître la vérité.
Avoir plusieurs versions, ça ralentit justement l'enquête. Il faut vraiment éclaircir ça et que ce soit terminé. Je pense que ça fait trop longtemps et je pense que la famille, ils ont vraiment besoin de pouvoir faire leur deuil correctement. C'est un contrôle routier, voilà. Je pense que la mort aurait pu être évitée.
Peu à peu, le dispositif de sécurité est enfin levé. Les protagonistes repartent discrètement à bord de voitures aux vitres teintées.
Merci Nicolas Burnan. Notez ce rendez-vous à 7h40. Toute première interview de l'avocat de la mère de Naël, maître Nadil Boudil, sera au micro d'Amandine Bégaud. Trois morts en moins de 48 heures à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Deux hommes ont été tués par balle hier. Ils étaient connus pour violence et trafic de stupéfiants. Vendredi soir, déjà pas loin de ces même lieu, une fusillade avait éclaté, faisant un mort et quatre autres blessés.
Après les universités la semaine dernière, les lycéens menacent à leur tour de bloquer leurs établissements pour soutenir la cause palestinienne.
Oui, on a vu la semaine dernière les images à Sciences Po Paris, devant la Sorbonne aussi. Eh bien, c'est désormais l'Union syndicale lycéenne qui appelle à des actions pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Et ce, dès aujourd'hui, Pierre Herbulot.
C'est à notre tour d'occuper et de bloquer. Voilà ce qu'écrit sur ses réseaux sociaux l'Union syndicale lycéenne. On veut déclencher un effet boule de neige pour créer un mouvement international de la jeunesse, explique l'un de ses représentants. Sans être précis, le syndicat dit attendre de nombreux blocages en Bretagne, en Île-de-France, puis autour de Lyon, Besançon et Tours. Un début seulement, puisque la mobilisation est censée, je cite, « monter en puissance demain, puis la semaine prochaine, après le pont de l'Ascension ». Un mouvement pacifique pour les lycéens qui disent craindre des violences policières. Parmi leurs revendications, la reconnaissance par la France d'un État palestinien et un cessez-le-feu à Gaza.
Et avec nous en direct à 6h15, Gwen Thomas Alves, il est le président de l'Union syndicale lycéenne. Il sera d'ailleurs sur un blocage dès ce matin au lycée Blaise Sandrars de Sevran, en région parisienne.
À Gaza, justement, le projet de trêve s'éloigne. Israël et le Hamas ont poursuivi les négociations hier en Égypte. Mais Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, n'accepte pas les demandes du mouvement islamiste qui réclame la fin des combats définitivement. Hier soir, 16 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes dans la ville surpeuplée de Rafah.
Lui a posé ses valises en France pour deux jours. C'est le président chinois Xi Jinping qui sera reçu par Emmanuel Macron ce matin.
À l'occasion des 60 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays, au programme du jour, les honneurs militaires, une cérémonie aux Invalides, un dîner d'État à l'Élysée, avant demain, un déjeuner au col du Tourmalet dans les Pyrénées, là où vivait sa grand-mère. Deux axes autour de cette visite, Bénédicte Tassard, le commerce et bien sûr la sécurité internationale.
Oui, priorité aux discussions stratégiques et surtout l'Ukraine. La Chine reste le principal levier pour faire bouger Poutine. Pas de naïveté à sur les diplomates. On sait que Xi Jinping et Vladimir Poutine ont un but commun, le déclin de l'Occident. Mais Pékin n'a pas intérêt à ce que le chef du Kremlin menace de l'arme nucléaire et enfonce l'Europe dans une guerre de 10 ans, parce que la guerre, ce n'est pas bon pour les affaires. Le commerce, c'est le second dossier chaud de ce voyage. Xi Jinping est à la tête d'un pays avec une croissance molle, avec des consommateurs chinois qui n'achètent plus, un secteur immobilier en crise, et le président chinois arrive dans une Europe bien décidée aujourd'hui à ne plus se laisser faire. Des enquêtes ont été déclenchées sur les voitures électriques, les panneaux solaires, les produits médicaux chinois. Pékin, de son côté, met des bâtons dans les roues du cognac français. La France doit réussir à redresser son déficit commercial avec la Chine. La Chine doit trouver des acheteurs en France.
Bénédicte Tassard, chef du service international de RTL. Après 12 jours de navigation sur le Belém, la flamme olympique arrivera en France mercredi à Marseille. 150 000 personnes attendues dans la cité phocéenne. Vous entendrez toute cette préparation dans le journal de 6h.
Les débats étaient animés hier sur RTL entre les 7 principales têtes de liste pour les élections européennes.
Invité d'un grand jury exceptionnel en partenariat avec Le Figaro, M6, Paris Première et LCP. Vous pouvez bien sûr écouter ce grand débat sur RTL.fr. Parmi les invités de ce débat, il y avait bien sûr la candidate Renaissance, Valérie Ayer. Elle présentera ce matin son programme pour le 9 juin prochain. Parmi les mesures, RTL a pu lire une partie de ce programme. Il y a ce plan Marie Curie, une enveloppe de 10 milliards d'euros pour financer la recherche contre le cancer, notamment. C'est une info qu'on vous révèle ce matin. Les Français seront moins nombreux à partir en vacances cet été. 6 sur 10, selon un sondage OpinionWay. En revanche, les concernés auront un budget plus élevé et comptent moins utiliser leur voiture. Et puis ça fera un an le 1er août prochain que le ticket de caisse imprimé n'est plus obligatoire, notamment en supermarché, mais vous êtes encore très nombreux à le demander. Un tiers des clients chez Carrefour, par exemple, c'est 45% chez Système U.
Est-ce que c'est votre cas d'ailleurs? N'hésitez pas à nous raconter ce que vous faites exactement à la caisse. 32-10. Et puis c'est une finale de rêve qui attend les Toulousains en Champions Cup.
On parle bien sûr de rugby. Toulouse face à son meilleur ennemi, Leinster, après avoir battu hier une autre équipe anglaise, les Harlequins, 28-26. L'entraîneur Hugo Mola est ravi de cette qualification en finale.
C'est des moments importants pour le club, parce que même si on fait partie des clubs qui ont eu l'occasion d'en vivre pas mal, c'est jamais rien de jouer une demi-finale à domicile, et particulièrement dans cette enceinte et avec ce public-là. Donc merci encore à tous nos supporters. Merci aux joueurs qui ont fait le nécessaire pour être à ce rendez-vous-là. Et puis ne boudons pas notre plaisir de jouer une finale de Coupe d'Europe dans 3 semaines.
Dans 3 semaines, donc le 25 mai prochain, ce sera à Londres. Hugo Mola qui était au micro RTL de Patrick Hisson. Ce soir, il y a du foot de la Ligue 1. Lille, 4e, reçoit Lyon, 9e. Les deux clubs toujours en course pour l'Europe.
Merci Tom, on vous en parle, 5h20.
Alors ça énerve tout le monde, mais on a du mal à s'en débarrasser. On parle ce matin des réunions de travail, une vraie perte de temps, vous l'entendrez.
N'oubliez pas cette réunion ce matin entre 9h et 11h.
Promis, je serai là.
Hein, vous serez là. Marina, vos messages.
Moi je serai pas là, je préviens tout de suite. Vous ferez votre réunion à tous les deux. Du côté de vos messages, bon, vous êtes nombreux à nous parler de la pluie, hein, puis vous dites encore de la pluie, j'ai plein de points d'exclamation aussi. Il y a Jeanne qui nous dit Dijon, 12 degrés, avec encore de la pluie, plein de points d'exclamation. Dominique nous dit, malgré la pluie, je vous souhaite un très bon lundi à tous de Saulieu, en Côte d'Or, où il fait 12,7 degrés. Nous avons Denis qui est à Averme, c'est dans l'Allier, que d'eau, 14 degrés. Et puis on doit terminer par le message de Dominique de Marseille qui fait un gros bisou à sa fille Laura qui fête ses 30 ans aujourd'hui. On vous embrasse toutes les deux, et Dominique et Laura.
RTL Matin. avec Jérôme Florin.
À suivre dans vos petits matins, RTL événement dans 5 minutes, l'enquête de la rédaction, le témoignage de Cathy, surnommée le baiser de la mort. C'est une ancienne gardienne de prison jugée aujourd'hui pour complicité de crime. Elle aurait désigné en l'embrassant la cible d'un règlement de compte entre mafieux. C'était à l'aéroport de Bastia pour état en 2017. Au programme également cette campagne des européennes sous haute tension en Allemagne, des candidats, des élus, des militants agressés, parfois très grièvement. C'est le cas d'un candidat encore vendredi soir à Dresde, dans l'est du pays. On en parlera dans RTL autour du monde. Et puis, à 6h15, vos experts santé et conso, Aline Perraudin nous dira qu'on soigne mieux la pelade aujourd'hui. Et puis, Olivier Dever nous expliquera pourquoi on met des graines à toutes les sauces.
RTL.
Votre revue de presse avec les caprices de la météo qui font la une de plusieurs quotidiens une nouvelle fois ce matin. Le soleil attendu de toute urgence, titre l'Union de.
Il arrive.
Soleil attendu pour les commerçants évidemment qui espèrent écouler leur collection de printemps. Il en est de même pour les brasseries et les bars dont les terrasses ont bien du mal à se remplir, constatent nos confrères. Des milliers d'hectares inondés en Picardie, ça c'est la une du courrier Picard. L'an dernier, le niveau trop bas des nappes phréatiques inquiétait. Cette année, c'est le trop plein d'eau qui pose problème. La Voie du Nord fête les 30 ans du tunnel sous la Manche aujourd'hui, le plus long tunnel sous-marin au monde. 30 ans à fond de train, c'est la une de nos confrères. Le 6 mai 1994, la reine d'Angleterre, Elisabeth II et François Mitterrand inauguraient le tunnel et posaient à bord de la Rolls Royale dans une navette du shuttle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo. Depuis, 500 millions de personnes et 102 millions de véhicules ont emprunté le tunnel. Chaque jour, ce sont 400 trains qui passent d'un côté de la Manche à l'autre. Au début, il fallait 3 heures pour relier les deux pays. Maintenant, il en faut 2h16. Une seule compagnie, Eurostar, mais qui pourrait commencer à avoir de la concurrence en 2026. On en reparlera d'ailleurs.
RTL, le podcast du jour.
Et aujourd'hui, je vous conseille le nouvel épisode de la règle d'or numérique consacré à la question de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Benjamin Hu, journaliste à RTL, explique pourquoi l'anonymat parfait n'existe pas et comment les autorités remontent la trace des internautes, notamment dans le cas d'une enquête ouverte pour cyberharcèlement.
Concrètement, si une enquête est ouverte pour cyberharcèlement, les policiers vont rassembler les messages problématiques pour caractériser les infractions. Ils vont ensuite adresser des réquisitions judiciaires aux plateformes sur lesquelles ils ont été postés. Instagram, Twitter, mais aussi Google ou Facebook vont alors fournir des informations sur les lignes téléphoniques, les mails et les adresses IP qui sont rattachées aux comptes des internautes visés. Les enquêteurs vont ensuite se servir de ces informations pour demander à Orange, Bouygues, SFR ou Free quelles adresses postales et quelles identités sont liées aux lignes incriminées. Le résultat est recoupé aux bases de données d'autres administrations, puis les policiers peuvent alors procéder aux interpellations et aux perquisitions au domicile des suspects.
Et pour retrouver ce podcast, vous allez sur rtl.fr ou vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone. Vous cliquez sur la petite loupe et dans la barre de recherche, vous tapez la règle d'or numérique. Restez avec nous sur RTL, RTL événement dans un instant avec cette incroyable histoire corse et ce procès qui commence aujourd'hui.
RTL pour analyser l'info. RTL Matin, l'angle éco.
Le gouvernement envisage de créer donc un nouveau droit social, le compte épargne temps universel.
Il s'agirait de permettre aux salariés qui ont accumulé des congés ou des RTT de transférer ce droit chez leur nouvel employeur. Un nouvel embauché se présenterait désormais chez son employeur avec son sac à dos et dedans 10, 15, 30 ou 60 jours de congés supplémentaires. L'obligation pour le nouvel employeur étant d'y faire droit. Vous imaginez le bazar.
L'angle éco à 7h35. Jérôme Florin, RTL Matin.
À retenir dans l'actualité ce matin, le trafic de drogue qui fait 3 morts en 2 jours à Sevran, en Seine-Saint-Denis. 2 hommes de 31 et 35 ans ont été tués hier en pleine rue, vers 18h dans le quartier de Moncelet-Pont-Blanc, non loin du lieu où avait éclaté une autre fusillade la veille et où un homme de 28 ans avait perdu la vie. Laurent Nunez, le préfet de police, s'est rendu sur place hier soir pour lui, pas de fatalisme, la sécurité va revenir dans le quartier.
Moi, je suis venu ici pour rassurer tout le monde. On va continuer cette action et de sécurisation et d'investigation judiciaire en profondeur. Il y a encore beaucoup de batailles à gagner, mais c'est une guerre qui est loin d'être perdue et on la mène avec beaucoup de détermination.
On y revient dans le journal de 5h30.
RTL événement.
L'événement ce lundi sur RTL, c'est le procès dit du baiser de la mort à l'aéroport de Bastia-Porretta. Incroyable histoire corse qu'on vous raconte ce matin. Bonjour Plana Radenovic.
Bonjour.
Le baiser de la mort, c'est le surnom donné à cette femme d'une cinquantaine d'années, Cathy, une surveillante de prison qui a basculé dans le crime. Comment ? Eh bien, on l'accuse d'avoir donné le signal à des membres d'une des organisations criminelles corses les plus connues pour assassiner deux hommes, mafieux, eux aussi. Racontez-nous d'abord ce 5 décembre 2017.
Alors c'est une vraie scène de film, il est environ 11h20, une femme grande aux très longs cheveux bruns se précipite vers un homme dans le hall des arrivées, elle l'embrasse. Elle c'est Cathy, 41 ans, originaire du Nord, elle est surveillante à la prison de Borgo. Lui c'est Jean-Luc Codaccioni, un Corse, il est incarcéré dans cette même prison où les frontières entre personnel et détenus sont connues pour être floues. Là il rentre d'une permission de sortie. Et surtout Codaccioni fait partie d'une organisation mafieuse de l'île issue du gang de la Brise de Mer. À ses côtés, Antoine Kilikini, un autre mafieux en liberté, lui, venu chercher son ami à l'aéroport. Ce baiser, c'est le signal donné par Cathy au tueur pour identifier leur cible. Quelques minutes plus tard, les deux hommes s'effondrent, criblés de balles.
Alors justement, Plana, comment cette femme a-t-elle pu basculer ?
Oui, ça apparaît vraiment dans ma correspondance avec elle, engagée il y a près de 2 ans à ma demande. Elle est corsicalisée, c'est le terme employé par l'expert psychologue, c'est-à-dire fascinée par la Corse. Voilà ce qu'elle m'écrit, la lettre est lue par une journaliste de RTL.
J'ai commencé à apprendre le Corse par mes détenus. Faut les entendre parler d'elle. Qu'est-ce qu'ils en sont fiers. Comment ne pas tomber amoureuse. Mon activité préférée est mon apprentissage de tout ce qui concerne la Corse. Elle est ma passion. Tout ce qui peut me rapprocher d'elle me contente.
Comment cette femme normale a-t-elle pu jouer un rôle si fondamental dans la criminalité organisée ? Ce sera aussi l'un des enjeux du procès, selon son avocat, Renaud Portejoie.
Comment on en arrive ? En étant mère de famille, représentant l'autorité en qualité de surveillante pénitentiaire, à se retrouver subjuguée par le milieu mafieux et à participer de façon active à un projet criminel. C'est la vraie question et je pense que des réponses qui seront apportées par la cour d'assises dépendra la peine qui sera prononcée.
Et à part donc son amour pour la Corse, comment elle explique ça ?
La base de tout, c'est l'ennui. Cathy dévore des séries comme Mafiosa, des polars et elle suit des cours de criminologie. Son mari est dépressif, la routine familiale ne la fait pas rêver. Elle s'installe en 2014 sur l'île, elle me l'écrit sur les conseils d'un détenu corse.
Un détenu corse de Paris La Santé, où je travaillais à cette période, m'a dit que là-bas, c'est l'enfant roi. Mon fils était harcelé à l'école. Et j'ai vu la différence. En Corse, il souriait, avait des amis, il était heureux.
À la prison de Borgo, la surveillante noue une amitié particulière, me décrit-elle, avec un détenu lui aussi particulier, Ange-Marie Michelosi. Ce dernier, qui sera cet après-midi dans le box des accusés à ses côtés, est engagé dans un projet de vendetta.
Mais alors, elle revendique son acte ou elle a été manipulée ?
C'est compliqué. L'expert psychiatre parle d'emprise, mais Cathy, elle refuse de perdre la face. Si elle admettait avoir tout perdu, risquer la réclusion criminelle à perpétuité et avoir été instrumentalisée, elle risquerait de s'effondrer psychiquement. Voici ce qu'elle m'écrit.
Je ne suis pas une personne qui parle beaucoup. Question sentiment, je suis pudique. Mais sachez que ma conscience, elle, est bavarde. Elle regrette le mal fait à des gens qui ne lui ont rien fait. Mais je suis lucide aussi. Et la seule chose que je puisse faire est d'assumer mes faits. Aucun retour en arrière n'est possible.
Dans ses lettres, elle se projette dans cette salle d'assises d'Aix-en-Provence. Elle dit redouter le moment où elle va croiser le regard des familles des victimes. Un regard qui restera gravé dans sa mémoire comme celui des deux hommes assassinés à Bastia-Porretta.
RTL événement signé ce matin, Plana Radenovic.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
On change complètement de sujet maintenant avec notre question du jour. Est-ce que vous êtes encore attaché au ticket de caisse ? Et vous dites oui majoritairement, hein, 72%, non 26%. Et il y a une étude sortie juste avant le week-end qui montrait que ces petits papiers censés disparaître font encore de la résistance, notamment dans les hypermarchés où une majorité de clients demandent toujours un ticket de caisse. Et vous donc, on en parle au 3210.
Avec Didier qui est chauffeur-livreur à Fontenay-le-Comte en Vendée. Bonjour Didier.
Bonjour.
Bonjour Didier.
Bonjour.
Vous êtes sur la route là ?
Je viens juste de déboucher.
Ah, vous travaillez de nuit donc ?
Ouais, je travaille de nuit, ouais.
Donc bientôt dodo ?
Ah ben là, je m'en vais, je vais prendre une douche, un petit déjeuner, puis je me couche.
Bon, bah très bien, merci de prendre quelques minutes pour nous ce matin. Alors Didier, vous êtes du genre à toujours demander le ticket en caisse ?
Ah oui, moi je demande tout le temps mon ticket de caisse parce que je vérifie... Attendez, bougez pas, j'essaye de faire mon bruit quelque part. Voilà, ça va peut-être mieux là.
Tout va bien, on est en direct, hein, c'est de la radio.
Voilà. Je demande tout le temps mon ticket de caisse pour contrôler déjà, voir s'il n'y a pas d'erreur sur la caisse, quoi, quand il me tape.
Mais partout ou seulement dans les grands magasins?
En général partout.
Partout, d'accord.
Ouais.
Et même sauf peut-être quand vous faites qu'un achat, non?
Quand je fais qu'un achat, s'il y a besoin d'une garantie, je prends mon ticket de caisse. Parce que le ticket de caisse, c'est froid pour la garantie.
Oui. Mais on n'achète pas tous les jours quelque chose qui a besoin d'une garantie.
Oui, non, bien sûr. Mais ça m'arrive de ne pas en prendre, oui, si je fais un ou deux articles.
Oula, Didier, vous êtes en train de tomber dans un trou, il se passe quelque chose, on ne vous entend plus. Ou on vous entend très très mal.
Là, je suis là.
Là, c'est mieux. Bon. Donc, Didier, ticket systématiquement. Est-ce que vous avez conscience que si vous ne preniez pas votre ticket, ce serait mieux pour l'environnement, pour la planète? Est-ce que vous entendez cet argument-là ou ça vous passe complètement au-dessus?
Alors, je vais vous dire une chose. Ouais. Moi, personnellement, je pense que de gagner 3 bûches de bois sur l'année, à peu près, c'est ce que consomme un être humain en ticket de caisse l'année.
Oui.
Hein? C'est à peu près ça. À mon avis, on limiterait les voyages en jet pour aller à un mariage, les voyages en jet pour aller à Toulouse ou etc. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup plus sur l'écologie.
Alors moi je vais vous donner un autre chiffre, c'est Carrefour qui dit avoir économisé ainsi 2000 km de papier par an.
Oui.
Avec en limitant le nombre de tickets de caisse.
Rapportez ça au bonhomme.
Ah oui.
Rapportez ça au bonhomme, ça fait 2 bûches de bois.
2 bûches, oui.
Hein? Par contre, un bonhomme qui s'en va visiter Toulouse parce que il y a eu des heures ou je sais pas quoi, il y va en jet plutôt que d'y aller en train ou en bagnole. Excuse-moi, mais on fera plus d'économies dans ce sens-là.
Alors, c'est une façon de voir les choses, effectivement.
Oui, après, on peut tous se comparer, il y a toujours mieux et pire.
Donc, ticket de caisse, en tout cas, on a compris votre argument, c'est pour vérifier si tout a bien été pris en compte et si les réductions ont été prises en compte. Beaucoup de messages, Tom, un peu qui vont dans le sens, d'ailleurs, de ce que nous dit Didier.
Oui, c'est ça, vous nous avez écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, vous nous avez beaucoup écrit, d'ailleurs, ça fait beaucoup réagir ce matin. Xavier, lui, garde le ticket en cas de contrôle, et s'il n'y a pas des erreurs, c'est toujours mieux pour vérifier. Régine trouve que c'est plus simple pour gérer son budget, comme ça, elle a tout l'équipe. Les tickets de caisse, elle fait ses comptes ensuite. Gérald nous écrit, ça me permet de comparer les prix, c'est-à-dire qu'il garde les tickets, vous savez, des différents produits au fur et à mesure du temps, il dit, là c'était moins cher avant.
Il faut être super organisé.
Il faut être très très organisé. Marie-Ange, elle les garde, mais que pour les vêtements, comme ça elle peut les échanger forcément. Et alors Corinne ne le demandait plus, mais elle a eu une sacrée mésaventure. Un jour elle est sortie du magasin et la sécurité a cru qu'elle n'avait pas payé, sauf qu'elle n'avait pas le ticket, elle ne l'avait pas demandé.
Ah oui.
Du coup ça a été compliqué, elle a dû retourner à la caisse, voir avec la caissière, etc. Donc elle nous dit franchement plus jamais ça.
Ah non, elle a raison, je comprends ce qu'elle veut dire, Coco. Didier, vous gardez, vous collectionnez vos tickets?
Je les collectionne pas. Je collectionne pas. Je vérifie mon ticket de caisse en sortant de la caisse. En général, c'est même en sortant avant de sortir du magasin.
D'accord. Une fois que c'est vérifié, voilà.
Mieux, oui.
Voilà, je vérifie et puis si par exemple, je vous dis une bêtise, mais je prends. Un pack de lait et mon compte est 2, je vais le voir tout de suite, quoi.
Oui.
Il y a des choses comme ça, quoi.
Merci beaucoup, Didier. On vous entend très mal, alors on est obligé de s'interrompre là parce que la ligne est très mauvaise. Mais on vous souhaite une bonne nuit.
Une bonne nuit, un bon petit déj, une bonne nuit.
Merci. Et puis, je souhaite une bonne nuit à tous les collègues de la plateforme de distribution qui se trouve sur Fontenelle-Comte et qui vont aller se coucher aussi.
Eh bien, on les embrasse, on leur souhaite une bonne nuit aussi.
En Vendée. Merci beaucoup, Didier. À bientôt.
Au revoir.
À bientôt.
Allez, au revoir.
Il est 5h23 sur RTL.
Merci d'écouter RTL. RTL, vivre ensemble. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est bien beau de vouloir mettre les enfants en pension. Et qui va payer tout ça? Parce que en temps normal, l'école est gratuite, mais là, c'est pas gratuit, là.
La façon d'éduquer les enfants, moi, je trouve que c'est plutôt l'État qui a les responsabilités et non pas de dire les parents ne font rien.
Vous aussi, vous souhaitez partager votre point de vue sur un sujet d'actualité? Vous êtes au bon endroit. Tous les jours à 13h, les auditeurs ont la parole sur RTL.
RTL Matin,
on vous en parle.
Tom, chaque matin, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux. Alors, si vous avez des réunions prévues aujourd'hui, vous nous dites n'y allez pas, hein, ça sert à rien.
Oui, alors c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui ressort d'une étude australienne. Après un rapport publié il y a quelques jours, les employés de bureau consacrent en moyenne près, écoutez bien, de 15 heures par semaine aux réunions. C'est énorme.
15 heures par semaine,
ouais, ça représente
énorme.
37% de leur temps de travail, donc plus d'un tiers du temps de travail, 37%. Et pourtant, dites-vous que ça a baissé en 2023. L'apogée, c'était pendant le Covid, où les managers ont peut-être un peu abusé des Zoom et des Teams pour maintenir le lien avec les salariés en télétravail. En revanche, eh bien, elles durent plus longtemps, ces réunions aujourd'hui, en moyenne 52 minutes aujourd'hui. C'était 50 minutes durant le Covid. Bon, je suis sûr que si vous nous écoutez ce matin et que vous travaillez dans un bureau, vous vous dites c'est vrai, on a trop de réunions. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Une concertation a été menée sur 5000 salariés dans 4 continents différents.
Et quel est le résultat alors?
Eh bien, il y a trop de réunions et elles nuisent à la productivité. Trop de réunions tuent les réunions. Ça a même un nom, figurez-vous, ça s'appelle la réunionnite. Ça déconcentre, ça fatigue aussi. On s'est rendu compte que les trois quarts des réunions ne servent ou ne mènent à rien. Elles pourraient être remplacées par une simple note ou un mail. Donc dites-vous tout le temps qui est perdu. Alors l'étude modère un peu et dit que c'est pas pour accabler les managers. Ils font pas des réunions à tout va pour rien. C'est surtout que les réunions se passent pas toujours comme prévu. Le but des réunions, évidemment, c'est de faire avancer un peu les idées. Mais en général, seul un petit groupe d'intervenants contrôle toute la conversation face à des participants dans la grande majorité qui sont assez discrets, qui ne contribuent pas vraiment à l'avancée des discussions. C'est vrai qu'aussi, les réunions, souvent, elles déraillent sur autre chose. Vous savez, quelqu'un qui commence à faire une aparté, ça fait un peu perdre du temps et pas du tout avancer le schmilblick. 78%, donc presque 8 salariés sur 10 interrogés, expliquent qu'ils n'arrivent pas à faire tout leur travail dans une journée et remplir leurs tâches à cause des réunions. La moitié d'entre eux sont obligés de faire des heures supplémentaires,
mais
selon leur déclaration.
Si tout le monde se plaint et que ça fait perdre du temps, pourquoi on continue de faire des réunions
hein? Alors, je me suis posé cette question et je me suis renseigné un peu. Eh bien, la seule réponse que je trouve, c'est juste parce qu'en fait, c'est la tradition. Ça a toujours existé dans le monde du travail. On a toujours fait des réunions pour avancer.
Rassure, au moins.
Voilà, exactement, ça rassure. Ouais. Des fois, il y a eu d'autres formes. On parlait de la réunion en visioconférence. Bon, celle-là, selon cette étude, sert encore moins à quelque chose parce que les gens sont trop déconcentrés en fait. En visio, souvent, vous savez, en plus, on n'allume pas, surtout pour ceux qui n'allument pas la caméra et qui sont en train de discuter, en train de faire à manger en même temps, être sur son téléphone. Les réunions sont pas très très utiles pour la productivité.
Bon, nous, on avait eu une réunion vendredi après-midi au téléphone.
Et on a été hyper productif, hein, 15h15h20.
Ça a été exactement, c'était vite réglé.
Pour la future délocalisation.
On peut en parler ce matin.
Mais oui.
Hein. Future délocalisation, on est en train de vous préparer ça aux petits oignons. Ouais. On peut vous donner la date? Oui, 25, fin mai.
24 mai.
24 mai, c'est un vendredi matin.
On donne la thématique ou pas?
Oui.
Les routiers.
Les routiers.
Ah.
Est-ce qu'on a le nom de la ville? Vous en souvenez, Marina?
Oui,
ou pas?
Limay, dans le 78.
Limay, voilà, dans le 78.
C'est-à-dire que...
Dans les Yvelines.
Vous allez m'emmener dans un camion?
Non.
Non?
On va aller dans un resto routier. Miam, miam.
Ah, donc on va manger.
Oui, oui, mais on va surtout aller
travailler. On va surtout travailler.
Ah, d'accord, okay.
Travailler, Tom.
Bon,
voilà.
C'est tout.
Voilà, vous savez tout. Évidemment, on vous reparlera de cette délocalisation des petits matins.
RTL.
Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier avec les souvenirs de Steward de Jean-Philippe Janssen.
Moi j'ai eu plusieurs fois le couple Giscard d'Estaing à bord.
Je me souviens très bien.
Ah, oui, quand j'ai commencé, je commençais dans une petite compagnie qui s'appelait Air Littoral et il y avait une ligne Paris-Clermont-Ferrand en Fouquier-San. Et donc.
Attendez, il y a. Vous avez été steward sur Paris-Clermont-Ferrand?
Quand j'ai commencé, oui.
Vous savez, le décalage horaire, c'était pas trop.
J'ai du mal à gérer le jet lag. Ah, oui.
Mais vous serviez un repas à combien de couverts?
Ah oui, non, mais c'était compliqué parce que comme c'était une petite compagnie et qu'il n'avait pas forcément les moyens d'adapter le service selon la durée du vol, on avait.
L'anémo n'avait pas le temps de s'épanouir. Hein.
Non, mais qu'on ait 45 minutes de vol ou 3 heures, c'était le même service. Donc on leur jetait les plateaux à la gueule, on n'avait pas le temps.
Ton dernier vol, c'était quoi? La dernière fois que t'as été steward?
Dans un monoprix.
Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h. On vous fait gagner des places pour aller voir le film Blue et compagnie avec Ryan Reynolds, avec les voix surtout de José Garcia, de Mylène Farmer, de Marina Foïs. Ça sort mercredi, Blue et Violet, car l'enfant qu'il a imaginé est daltonien. Voilà le pitch de ce film en partenariat avec RTL. Donc ça sort mercredi pour aller voir ce film et gagner des places. Surtout, vous appelez le 3210. Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. Marina, des températures de saison. Hein.
Ce matin, oui, ça va. Voilà, cet après-midi, ce sera un petit peu frais.
Mais un ciel très agité, et on commence par ça.
D'accord. Alors, le ciel très agité, on le doit à deux choses. Déjà, une perturbation qui traverse le pays d'ouest en est. Ça a commencé hier. Et là, en ce moment, la perturbation, elle s'étend des Pyrénées en remontant vers le Massif central et le Grand Est. C'est là où on a le plus de pluie. Mais à l'arrière, vous avez un ciel de traîne. Donc, vous savez, c'est un ciel après une perturbation. Et il est actif. Donc, il y a aussi des averses. C'est le cas là en ce moment, notamment vers la Picardie, vers la Seine-Maritime, vers l'Aquitaine. Et surtout, il y a une deuxième perturbation qui arrive là par la Bretagne et qui va concerner une bonne moitié ouest du pays d'ici à la fin de la journée. En tous les cas, tout ça va se confondre et tout ça va donner un ciel nuageux, pluvieux, voire orageux, parce qu'il y aura aussi des impacts de foudre, notamment cet après-midi, que ce soit vers le sud-est ou alors avec la nouvelle perturbation sur l'ouest du pays. Bref, ce sera perturbé avec de la neige en montagne pour les Pyrénées et les Alpes à partir de 2000 mètres.
Et les températures donc ?
Donc les températures ce matin, ça va, mais c'est vrai que cet après-midi, eh bien, ça a fortement baissé sur l'est et le sud-ouest. On va être en dessous des moyennes de saison, alors à part sur la Corse. On aura 12 degrés à Aurillac. Il faisait 21 hier à Aurillac. Hein. 14 à Cherbourg, 15 à Brest, 17 à Lille, 16 à Paris, 20 à Toulon, 21 à Marseille et 25 à Ajaccio, parce que j'ai oublié de vous parler de la Corse qui, elle, va échapper à ce mauvais temps. Vous aurez, vous, un temps sec et agréable.
Merci Marina, merci d'écouter RTL, il est 5h30.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
Le journal, c'est avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous.
Et RTL vous le révèle, ce matin, les Français partiront moins en vacances cet été.
6 sur 10 seulement vont prendre des congés, mais le budget des vacanciers, lui, augmente. Une deuxième fusillade en moins de 48 heures à Sevran, toujours en lien avec le trafic de drogue.
Et après ce journal RTL autour du monde, l'idée d'une trêve à Gaza, toujours plus incertaine ce matin. La question de l'arrêt des combats oppose toujours le Hamas et Israël.
Et puis la Formule 1, première victoire de sa carrière pour Lando Norris, vainqueur du Grand Prix de Miami cette nuit.
RTL Matin.
Les Français seront donc moins nombreux à faire leur valise cet été pour partir en congé. RTL vous révèle ce matin les résultats d'un sondage OpinionWay pour le comparateur de voyages Liligo. Verdict, Nathan Bocard, 4 Français sur 10 ne partiront pas en vacances.
Exactement, 40% des Français interrogés qui ne prendront pas de congé cet été, c'est 3 points de plus que l'an dernier. Et c'est aussi la première fois en 4 ans que ce chiffre augmente. Pourquoi ? L'une des pistes, bien sûr, c'est l'inflation. 6 Français sur 10 disent qu'elle a un impact important sur leurs réservations. Et puis pour près de la moitié des interrogés, la tenue des Jeux Olympiques en France joue sur leurs décisions. Alors ils partiront moins, certes, mais ceux qui partent dépenseront plus. Selon le sondage, le budget moyen prévu par les vacanciers, il est d'un peu plus de 1200 euros pour l'été. C'est presque 100 euros de plus que l'an dernier. Enfin, l'étude nous apprend que les Français vont délaisser un peu la voiture. Alors, elle reste quand même le moyen de transport préféré de 7 Français sur 10 pour les vacances. Mais c'est un peu moins que les années précédentes. En revanche, ils sont un peu plus nombreux à prendre l'avion et surtout plus nombreux à prendre le train. Une explication à cela, l'écologie. Un tiers des Français prend en compte l'empreinte carbone au moment d'organiser les vacances.
Nathan Bocard du service économie de RTL.
RTL 5h32 en Seine-Saint-Denis. Une nouvelle fusillade a touché Sevran dans la soirée.
2 hommes ont été tués hier soir en pleine rue, 48 heures après un règlement de compte entre narcotrafiquants qui a tué une personne à seulement 2 km de là. Des fusillades qui sont une possible conséquence des récentes opérations de lutte contre les points de deal, selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, au micro RTL de Thomas Proutot.
Moi, je suis venu surtout pour rassurer les élus, aussi les habitants de Sevran, pour dire qu'on sera présent en termes de sécurisation. Puis aussi, on va poursuivre les investigations judiciaires pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Alors évidemment, on a conscience que quand on fait ça, on déstabilise le trafic, on crée des convoitises et parfois, il y a des affrontements entre bandes de criminalité organisée pour récupérer des territoires, d'où un certain nombre de règlements de compte qui se traduisent par des homicides. Mais on va quand même continuer. Et moi, je suis venu ce soir ici pour rassurer tout le monde. On va continuer cette action et de sécurisation et d'investigation judiciaire en profondeur. Il y a encore beaucoup de batailles à gagner, mais c'est une guerre qui est loin d'être perdue et on la mène avec beaucoup de détermination.
Les suspects impliqués dans cette fusillade d'hier soir ont d'ailleurs pris la fuite. Plus de 10 mois après la mort de Naël à Nanterre, une reconstitution des faits s'est tenue hier sur place tout au long de la journée, à l'abri des regards, en présence des 2 policiers impliqués dans la mort de l'adolescent tué par un tir après un refus d'obtempérer. Et pour la première fois, l'avocat de la famille de Naël prend la parole ce matin à 7h40 sur RTL. Maître Nabil Boudi, présent hier à cette reconstitution, sera l'invité d'Amandine Bégaud. La compagne de Kenji Girac sort du silence 2 semaines après le tir qui a blessé le chanteur. Elle affirme dans un entretien au Parisien qu'il ne lui a jamais fait de chantage au suicide, ce qui contredit les propos du procureur. Lui affirmait que l'artiste avait voulu simuler un suicide pour faire peur à sa compagne qui menaçait de le quitter après une dispute. Elle dit être à ses côtés depuis cet accident et donne de ses nouvelles. Kenji Girac va mieux, il est désormais en convalescence.
C'était l'événement politique du week-end, hein, ce grand débat des européennes sur RTL.
Un grand jury, souvent animé entre les 7 candidats dont le parti est déjà présent au Parlement européen. Parmi eux, la tête de liste de la majorité, Valérie Ayé, qui va dévoiler ce matin son programme pour le scrutin avec près de 50 propositions. Et RTL révèle ce matin l'une de ses mesures phares, Thomas Desprez, un budget pour la santé baptisé Plan Marie Curie.
Oui, c'est la première des 48 propositions qui seront dévoilées tout à l'heure. Un sujet concernant, selon les stratèges de la campagne, traduisez, qui parle à tout le monde et qui permettra surtout, veut croire le camp présidentiel, de rappeler que c'est grâce à l'Europe que la France a pu vacciner à tour de bras et qu'à l'époque, l'extrême droite préférait se tourner vers Spoutnik, le vaccin russe. En clair, derrière ce plan Marie Curie, ce que propose Valérie Ayé, c'est un budget commun d'environ 10 milliards d'euros par an, dédié à la recherche contre le cancer, contre la maladie d'Alzheimer, contre les maladies dégénératives. La santé, c'est l'un des thèmes qui est le plus revenu dans la consultation ouverte aux adhérents du parti Renaissance le mois dernier. Parmi les autres grands chapitres du programme, la sécurité et la défense, bien sûr, occuperont une grande place avec des propositions très largement inspirées du discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Valérie Ayé qui devrait aussi formuler plusieurs propositions pour réformer l'Europe de l'intérieur en citant une autre figure au panthéon européen en la personne de Jacques Delors.
Thomas Desprez du service politique de RTL. C'est une première depuis 5 ans, Xi Jinping en France jusqu'à demain. Le président chinois en visite d'État pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Et les discussions ne s'annoncent pas de tout repos avec notamment les questions du commerce et de la sécurité mais aussi la guerre en Ukraine. RTL vous décrypte les enjeux de cette visite dans le journal de 6h. Quelles ambitions pour électrifier nos voitures ces 3 prochaines années? Le gouvernement réunit ce matin la filière auto pour signer un nouveau contrat d'engagement. Objectif 800 000 ventes dès 2027. D'ici 2027, ce qui veut dire multiplier les ventes par 4 pour les électriques, des aides sociales à l'achat doivent être maintenues.
RTL 5h36, le rugby Toulouse jouera sa 8e finale de Coupe des Champions.
Antoine Dupont et ses coéquipiers ont sorti en demi les Anglais d'Harlequins 38 à 26. Ils retrouveront les Irlandais du Leinster en finale le 25 mai. En Formule 1, Max Verstappen surpris sur le Grand Prix de Miami puisque Lando Norris s'est imposé dans la soirée. Le Britannique de McLaren remporte le premier Grand Prix de sa carrière, Frédéric Veil.
Il avait jusqu'alors terminé 8 fois 2e d'un Grand Prix, 15 podiums en tout dans sa carrière, mais hier, sous le soleil de la Floride, c'est bien son premier succès en Formule 1 qu'il a décroché, lui le jeune prodige britannique, star des réseaux sociaux, arrivé en Formule 1 à l'âge de 19 ans grâce à son talent, mais surtout grâce à l'argent d'Adam Norris, son père, qui après avoir fait fortune dans la finance, soutient de fort belle manière son fils, qui courait après cette première victoire depuis plusieurs mois déjà, et qui permet à McLaren de décrocher un 184e succès en Formule 1, un succès majuscule puisque Lando a mis fin hier à la suprématie de Max Verstappen, de quoi redonner un peu plus d'intérêt à ce championnat du monde de Formule 1.
Frédéric Veil, spécialiste Formule 1 de RTL. Le football, Lille reçoit Lyon à 21h dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1 et pour la course à l'Europe. En tennis, Andrei Rublev remporte à Madrid le 2e titre en Masters 1000 de sa carrière. Le Russe a balayé en finale Félix Auger-Aliassime 4-6, 7-5, 7-5. Le cyclisme, Tadej Pogacar enfile le maillot rose de leader du Tour d'Italie. Le Slovène remporte la 2e étape du Giro.
Et puis, plus que 2 jours avant que la flamme olympique n'arrive dans le Vieux-Port à Marseille.
Vous le vivrez sur RTL, journée et édition spéciale dès 18h mercredi. On en sait un peu plus sur ceux qui vont porter la flamme à travers Marseille, après Florent Manaudou, Tony Parker, Didier Drogba, Jean-Pierre Papin, Basile Boli ou encore Valentin Rongier. Et puis, à 1 mois des 80 ans du débarquement, RTL appelle les jeunes à rendre hommage à la liberté. Tous les collégiens et lycéens lycéens de France sont invités à écrire 10 lignes sur ce que représente pour eux la liberté. L'élève vainqueur lira son ode à la liberté sur RTL, ce sera le 6 juin. Et le texte est envoyé par email à liberté@rtl.fr.
Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h.
À tout à l'heure.
Et bon anniversaire.
Joyeux anniversaire Hortense.
Alors ce qui est formidable, c'est que c'est tous les ans. Hein.
Oui, ouais. C'est le même jour que Georges Clooney, ça j'en suis assez fière.
Ah oui, ouais. Parce que Georges Clooney c'est aujourd'hui.
Oui,
ah, parce qu'on lui avait fêté son anniversaire vendredi. Sur RTL, on s'était un petit peu trompé dans les dates, mais voilà. Voilà. En tout cas, vous, c'est bien aujourd'hui.
Oui, c'est bien aujourd'hui.
Eh bien, profitez-en.
Happy birthday. Merci.
On vous embrasse très fort.
Et à tout à l'heure à 7h.
À tout à l'heure.
RTL autour du monde.
RTL autour du monde avec un reportage suivi d'un coup d'œil dans la presse. On sera en Allemagne dans un instant où l'on s'inquiète des agressions contre les politiques en pleine campagne des européennes. Mais d'abord, donc, la situation à Gaza avec une attaque israélienne qui a fait 16 morts ces dernières heures à Rafah dans le sud de l'enclave palestinienne. Émilie Beaujard, la perspective d'une trêve paraît encore bien loin ce matin.
Oui, chacun s'accuse mutuellement de saboter les efforts de trêve. Là où ça coince, c'est sur l'arrêt des combats. Le Hamas réclame la fin de la guerre contre la libération des otages. De son côté, Benjamin Netanyahou ne veut qu'un cessez-le-feu temporaire. Hier, il a réaffirmé son opposition à la fin de la guerre, car il estime que cela permettrait au Hamas de se maintenir au pouvoir. Pas de concession en vue donc. La délégation du Hamas est repartie du Caire hier soir. Tous les espoirs ne sont pas encore perdus. En coulisses, des discussions vont encore avoir lieu au Qatar et des représentants du Hamas pourraient revenir en Égypte demain. Mais une offensive sur Rafah semble désormais inéluctable alors que plus d'un million de Gazaouis sont réfugiés dans cette ville sans possibilité d'aller ailleurs dans un endroit sûr.
Émilie Beaujard, notre coup d'œil dans la presse à présent en Allemagne ce matin. L'Allemagne toujours secouée par l'agression d'un candidat aux européennes. C'était vendredi soir, Matthias Ecke, eurodéputé social-démocrate. Il a été passé à tabac par plusieurs personnes masquées alors qu'il collait des affiches. Il a été hospitalisé. On soupçonne l'extrême droite. Un jeune de 17 ans s'est rendu. Il affirme être l'un des auteurs. La violence pourrit la campagne en ce moment en Allemagne. Quand poser des affiches devient dangereux, titre le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui note que de plus en plus d'élus locaux et de militants sont agressés. Il y a encore eu ce week-end dans l'état de Saxe des militants verts pris à partie. La violence est d'abord dans les mots, partout sur les murs de cette campagne des européennes. Le parti d'extrême droite AfD écrit par exemple sur ses affiches qu'il, je cite, n'est pas d'humeur à interdire les discours de haine. L'autre parti d'extrême droite, Troisième Voie, placard de ces mots, je cite encore, débarrassez-vous de cette merde, en visant tous les partis de gouvernement. Eh bien, visiblement, beaucoup joignent le geste à la parole, hein, puisque la violence antidémocratique est en hausse en Allemagne depuis le début de l'année. Une expression crue et sans limite peut avoir des conséquences sur la vie et l'intégrité physique, constatent nos confrères d'Outre-Rhin, qui concluent « Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est une amère réalité de la campagne électorale allemande en 2024. » Restez avec nous sur RTL. Au 3210, nous parlons des tickets de caisse. Est-ce que vous demandez encore la version papier des tickets? Vous êtes une grande majorité à dire oui ce matin.
Merci d'écouter RTL.
RTL, vivre ensemble.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement. Thomas, bonjour. Vous avez interrogé un spécialiste de l'Union européenne. Alors pourquoi on vote exactement en juin prochain?
Eh bien, pour élire les 81 représentants français qui vont siéger pendant les 5 prochaines années au Parlement européen. C'est une élection à un tour et chaque liste qui obtient plus de 5% des suffrages se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel à son score.
Et pourquoi c'est une élection importante?
Parce que les députés européens travaillent à améliorer notre quotidien à travers des projets cofinancés ou en votant des lois comme celle sur la réduction des produits issus de filières qui contribuent à la déforestation.
Très bien. Et on vote quand alors?
Le 9 juin, ainsi que le 8 juin dans certains bureaux de vote des Outre-mer ou des consulats de la zone atlantique. Pour plus d'infos, rendez-vous sur elections.intérieur.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement. Julien Courbet règle vos problèmes en direct sur RTL.
Alors, il y a tous les fans de l'émission qui sont là et qui ont envie de savoir qui sera là ce matin à partir de 9h. Eh bien, je leur annonce qu'il y aura Maître de Comont, Hervé Pouchol, Bernard Sabat, Mickaël pour l'immobilier. Je préfère ne pas vous présenter Sylvie parce que je sais que vous êtes susceptible.
Oui.
Sylvie Novakovic. Ils l'ont pas dit pour elle.
Super.
À tout à l'heure, 9h.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Dans le journal de 6h, on sera à Marseille. La ville se prépare à accueillir la flamme olympique. Elle arrivera mercredi après 12 jours à bord du Bellem. Jean-Pierre Papin, Tony Parker ou encore le chanteur soprano porteront la flamme. En attendant, le Vieux-Port est en ébullition pour préparer le spectacle au milieu des pêcheurs, parfois un peu sceptiques.
S'il n'y a pas les pêcheurs sur le Vieux-Port, c'est plus Marseille. Hein. C'est un peu la pagaille. On travaille entre des échafaudages et enfin, un tas de trucs pour que tout se passe bien. On arrive à s'en sortir, mais c'est un peu compliqué, quoi.
On y revient dans le journal de 6h.
RTL Matin.
Money. Est-ce que vous êtes encore attaché au ticket de caisse? C'est notre question du jour. Vous dites oui à 72%, non 26%. Vous votez toute la journée sur RTL.fr. Je rappelle qu'une étude sortie juste avant le week-end a montré que ces petits papiers qu'on n'est plus obligé d'imprimer depuis le mois d'août dernier ont encore la cote, notamment dans les hypermarchés.
Oui, on va en discuter avec Sophie qui est à côté de Roubaix. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Bonjour Sophie. Vous faites partie de ceux qui demandent toujours le ticket aujourd'hui.
Toujours.
Oui. Alors pour quelle raison?
Alors parce qu'on s'est aperçu, moi avec ma maman, on s'est aperçu de beaucoup de choses. À un moment, on ne le demandait plus et puis on s'est dit, c'est bizarre, il y a des choses en plus dans notre caddie.
Des choses en plus dans votre caddie.
On a redemandé le ticket de caisse et une fois, maman dit, tu as acheté des avocats? J'ai dit, mais si je vais prendre pas d'avocat, je déteste les avocats. Et puis, heureusement qu'on avait pris notre ticket de caisse.
Oui.
On retourne à la caisse principale et on dit, on n'a pas acheté d'avocat. Et on nous fait fouiller notre caddie, on déballe tout. Mmh. Évidemment, il n'y avait pas d'avocat. C'était la caissière du supermarché qui avait acheté des avocats pour elle,
non.
Qui avait rajouté des avocats sur notre ticket de caisse pour pouvoir les acheter pour elle.
Ah oui, c'est même pas une erreur parce que ça arrive que parfois.
C'était même pas une erreur, c'était la caissière de supermarché qui avait acheté des avocats pour elle.
On précise que vous êtes non-voyante, Sophie.
Oui, je suis non-voyante, voilà. C'est ma maman qui fait des courses avec moi.
Donc pour vous, le ticket de caisse, c'est essentiel.
Pour moi, c'est essentiel.
Eh bien écoutez, restez avec nous, oui. On va accueillir Alain qui est à Bourges.
Retraité, bonjour Alain.
Oui, bonjour. C'est Marina?
Oui, c'est moi.
Bah, écoutez, Alain. Je vais vous dire une chose.
Oui, c'est Marina.
Vite fait. Je m'appelle comme vous.
C'est-à-dire Marina Alain?
Non, mais mon nom
de famille. Alain Giraudeau?
Oui.
Ah, mais vous êtes vendéen ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de Giraudeau.
Mais moi, j'ai un X à la fin.
Ah, ils sont moins bien,
alors,
ceux-là.
Cousin,
très
éloigné, alors.
Non, c'est mieux parce que ça arrête le mot. Ça arrête le nom.
Alain, est-ce que vous êtes comme Sophie? Est-ce que vous demandez systématiquement vos tickets de caisse?
Oh oui, à 98%.
Et alors, pour quelle raison?
Bah, pour la raison que là j'ai entendu déjà plusieurs fois, déjà pour contrôler le ticket de caisse, parce que les erreurs arrivent, et là je me suis aperçu par moment qu'il y avait des articles en promotion et qu'aux caisses elles n'avaient pas été prévues, ou les caisses n'avaient pas enregistré cette promotion. Hein. En plus, ça me permet, si j'achète un objet, d'avoir la garantie. Mmh. Et puis deuxièmement, comme dans ce magasin je cagnotte, ça me permet aussi de vérifier ma cagnotte.
Et quand on cagnotte, on est obligé de garder ses tickets, évidemment.
Non, simplement, il faut avoir le.
Oui,
il faut avoir le dernier. Puis si vous décidez, aujourd'hui, je vais prendre 10 euros ou 5 euros sur ma cagnotte parce que j'ai trop dépensé, je le dis à la caisse et puis je monte simplement ma carte du magasin.
D'accord. Sophie, je reviens vers vous. Vous entendez ce que dit Alain, mais en fait, vous allez tous dans le même sens ce matin, une écrasante majorité. Vous êtes retourné contre la caissière qui faisait ses courses sur votre dos?
De toute façon, ces caissières-là, on les a repérées, puis avec maman, on n'y passe plus.
Oui, mais vous avez entamé une procédure dans le magasin ou pas?
Ah non, ces caissières-là, simplement, on sait qui elles sont, et puis
vous les avez dénoncées?
Et on ne passe plus à ces caissières-là.
Oui, mais vous les avez dénoncées ou pas?
Ah oui, on les a dénoncées à la direction.
Et alors?
Elles sont toujours là, malheureusement.
Bon, écoutez, c'est curieux. Parce que c'est quand même une faute professionnelle.
C'est une drôle de façon de faire, mais bon.
Oui, c'est curieux. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage, Sophie. Merci beaucoup, Alain Giraudeau. Hein, donc avec un X.
Giraudeaux.
On peut rien faire, malheureusement.
Non, ne m'appelez pas Giraudeaux. M'appelez pas Giraudeaux, ça me rappelle ma jeunesse, parce qu'on m'appelle comme ça.
Ah bon, Giraudeaux, alors tout court.
Vous êtes toujours jeune, Alain, arrêtez, voyons.
Pardon?
Vous êtes toujours jeune.
J'ai bientôt 84 ans.
Voilà, oui, mais on est encore jeune aujourd'hui à 84 ans. On vous embrasse tous les deux. Très très bonne journée. Il est 5h47 sur RTL.
Merci, au revoir.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Merci de vous réveiller avec RTL, c'est l'heure de votre première tablée du petit matin. Christine Haas, Aline Perraudin et Olivier Dauvert, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Aline, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui en souffrent, on soigne mieux la pelade.
Oui, oui, il y a de nouveaux traitements actuellement et c'est vraiment très encourageant.
Olivier, les pourquoi de la conso ce matin ?
Pourquoi mettons des graines partout ? Vous verrez dans les produits des supermarchés, vous voyez souvent des graines et je vous dis pourquoi.
RTL Matin, avec Jérôme Florin. Flavie Flamand sur RTL, jour J.
Les sondages la donnent favorite pour les municipales de 2026 à Paris. Elle a créé la surprise en rejoignant le gouvernement de Gabriel Attal au poste de ministre de la Culture 15 ans après avoir été la garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy. Femme de Trump, ambitieuse, libre, comment Rachida Dati est-elle devenue incontournable ? Réponse ce soir à 20h dans jour J.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
La console à santé du lundi au jeudi avec vos spécialistes. Olivier, vous nous parlez de graines.
Oh, ces petites graines qu'on met partout dans l'alimentation. Il y en a de plus en plus, notamment pour vous vendre plus cher. Vous allez voir pourquoi.
Ce sera juste après Aline Perraudin. Aujourd'hui, Aline, on parle de la pelade parce qu'il y a une étude qui vient de montrer qu'elle peut avoir un fort impact sur la qualité de vie des patients. D'abord, on rappelle ce que c'est la pelade.
Alors la pelade, c'est une maladie qui entraîne une perte des cheveux brutale. Cette perte est spectaculaire quand elle atteint l'ensemble de la chevelure. Cela arrive dans 10% des cas. La plupart du temps, la pelade est localisée, ce qui entraîne une perte de cheveux formant une ou plusieurs petites plaques, souvent rondes. Les plaques peuvent aussi survenir au niveau des sourcils, des cils et de la barbe. Vous savez, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe en est atteint.
Et c'est fréquent ?
Alors c'est fréquent parce que ça touche 1 à 2% de la population dans 70 à 80% des cas, elle apparaît avant l'âge de 40 ans et dans 55% des cas, elle débute dans l'enfance et dans l'adolescence. Elle peut avoir un fort impact sur la qualité de vie, engendrer des troubles anxieux ou dépressifs, impacter la confiance en soi. C'est ce que vient de montrer une étude internationale réalisée dans 11 pays et menée auprès d'environ 700 patients atteints de pelade sévère.
Alors c'est dû à quoi ? C'est dû au stress, non ?
Alors c'est souvent ce qu'on dit, on évoque le stress, notamment après un choc émotionnel, après un deuil. Il semble que le stress au sens médical du terme, psychologique mais aussi physiologique, hormonal, puberté, grossesse, ménopause, infectieux, après un Covid par exemple, puisse être un facteur déclenchant de la maladie, m'a confirmé le professeur Thierry Passeron, chef de service de dermatologie au CHU de Nice. Mais on peut aussi avoir une pelade sans stress. Ouais. Ce dont on est sûr, c'est qu'il s'agit d'une maladie auto-immune, c'est-à-dire d'une maladie du système immunitaire qui survient plutôt chez des personnes génétiquement prédisposées. Et en cas de pelade, le système immunitaire se retourne contre les follicules pileux qui s'arrêtent de fonctionner, les cheveux tombent, la maladie évolue par poussée, pouvant se répéter au cours de la vie.
Et qu'est-ce qu'on a comme traitement contre ça ?
Alors, dans la pelade, les cheveux peuvent repousser spontanément.
D'accord.
Mais pour favoriser la repousse, qui est variable d'une personne à l'autre, des corticoïdes peuvent être prescrits, ils aident à stopper l'inflammation. Le minoxidil, couramment utilisé en cas de perte de cheveux, peut également être appliqué sur les plaques. On peut aussi avoir recours à un traitement avec des UVB spéciaux par lampe ou laser excimer. Et pour les formes sévères à très sévères, correspondant à une perte de 50% ou plus des cheveux, il existe désormais de nouveaux médicaments.
Lesquels ?
Bien, ce sont des médicaments dits immunomodulateurs qui jouent sur le système immunitaire. D'accord. Sous forme de comprimés. L'un d'eux, le baricitinib, est déjà disponible en France uniquement à l'hôpital pour les adultes. Un autre, le ritlecitinib, devrait bientôt être commercialisé en France et il pourrait être donné dès l'âge de 12 ans. Alors ces médicaments sont généralement bien tolérés mais ont des contre-indications. Ils donnent des résultats similaires. On observe, m'a dit le dermatologue, une repousse de plus de 80% des cheveux chez un peu moins d'un patient sur deux au bout d'un an de traitement. Mais pour qu'il n'y ait pas de rechute, le traitement doit être pris en continu.
Merci beaucoup Aline. Alors pour faire pousser les cheveux, il y a aussi les graines.
Oui.
Mais là on va parler d'un autre type de graines, Olivier Dauvert, c'est ceux qu'on trouve dans l'alimentation. Il y en a de plus en plus.
Oui, si ça n'est...
Que vous soyez plutôt chien, plutôt chat, lapin ou même poule, tout ce qui compte pour nous, c'est que vos animaux et vous soyez heureux. Avec l'application Maxiso, profitez de centaines de réductions sur ses produits préférés, de conseils d'experts pour prendre soin de lui, commandez en ligne et retrouvez même l'historique de vos achats directement dans l'appli. Alors foncez, téléchargez gratuitement l'application mobile Maxiso et ne ratez plus aucune occasion de faire des économies. Chez Maxiso, nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux.
Elles cherchent toujours à nous vendre plus. Et pour ça, elles ont aussi une incroyable qualité. Elles nous auscultent, elles nous connaissent, elles nous comprennent.
Et elles ont compris qu'on voulait manger des graines.
Oui, surtout qu'on est prêt à payer plus cher pour ces produits, parce qu'à nos yeux, ils sont plus haut de gamme. Alors, on va prendre un exemple. C'est le petit-déj, il est bientôt 6h, direction le rayon biscotte, disons chez Carrefour. Le paquet de biscottes classique, précisément 93 centimes, ça c'est son prix. La version céréales et graines, 1,46€. Vous savez compter, ça fait plus de 50% d'écart. Alors attention, hein, j'ai pas dit que ça le valait pas, je voudrais pas que ceux qui croquent en ce moment dans des biscottes aux graines s'étouffent avec, mais bon, ça fait quand même 50% de plus.
Et alors pourquoi une telle différence de prix? Parce que c'est quand même pas négligeable.
Alors déjà, soyons honnêtes, c'est pas exactement le même produit, et heureusement d'accord. D'ailleurs, parce qu'il y a effectivement des graines. Alors par contre, si vous regardez combien il y en a, 3%. C'est juste pour qu'elle se voit sur la tranche de la biscotte, en fait. Parce que ce sont ces petites graines qui vont envoyer le message au cerveau que le produit est bon, au-delà de savoir si vous le trouvez réellement meilleur.
Donc, on nous prend pour des courges. Mais c'est pourquoi cet attrait pour les graines?
Eh ben, c'est en fait ça le fond du sujet. Alors, c'est peut-être parce qu'à l'origine, nous étions des oiseaux, hein, qui sait. Bon, là, j'avoue, je suis un peu léger en paléontologie, donc je vais vite changer de couloir,
oui,
comme on dit.
Vous allez perdre des plumes, là.
En revanche, excellent. Hein. En revanche, deux explications plus sérieuses. D'abord, une qui est liée à l'imaginaire des graines. La graine, c'est la vie. Et je suis très sérieux, là, vous pouvez me faire confiance. Hein. L'agriculture, c'est quand même un peu ma formation d'origine. Oui, la graine, c'est le début de la vie. D'ailleurs, comment explique-t-on aux enfants comment on fait les bébés? En plantant la fameuse petite graine. Je suis très sérieux en vous disant ça. Ensuite, il y a évidemment tout le tapage, et légitime d'ailleurs, hein, tout le tapage qui est fait par les nutritionnistes pour manger, par exemple, des céréales complètes, c'est-à-dire le maximum de la graine. Et puis, il y a les effets de mode. Alors, en ce moment, c'est la graine de chia. Demain, ça sera peut-être une autre, peu importe. Voilà pourquoi nous adorons les graines, et surtout pourquoi les marques en mettent partout. Parce que c'est bien connu. Pour faire du blé ou de l'oseille, il faut d'abord planter une graine.
Olivier Dauvert en pleine forme. Merci, on vous retrouve à 9h tout à l'heure chez
Julien Courbet. Et en pleine forme aussi avec Julien Courbet.
Et Aline et Olivier tous les deux, on vous retrouve demain.
À demain.
À demain.
Et Christine As, toujours en pleine forme.
Bah oui.
Bah oui. Alors, que nous réservent les astres cette semaine?
Alors, Christine.
Les astres ou des astres? On va voir ça. On commence par les taureaux.
Oui, une semaine intéressante pour chaque décan, avec une belle nouvelle lune le 8 et Vénus qui arrive dans le deuxième décan de votre signe de bain. Vous serez le plus épicurien de tous. Gémeaux, le bélier est encore fort de deux astres, dont Mars. Vous serez enthousiasmé par un projet en développement ou par une information surprenante. Cancer, si vous êtes du deuxième décan, la pleine lune de mercredi est prometteuse. Nous en reparlerons. Troisième décan, c'est à votre tour de voir votre avenir changer de couleur.
Les lions.
Alors, il y a de l'inattendu au programme cette semaine, surtout pour le troisième décan, et ça ne sera pas toujours ce que vous espérez, mais vous saurez vous adapter. Vierge, vous aurez des nouvelles du bon aspect qu'Uranus vous envoie si vous êtes du troisième décan. Un projet qui vous tient à cœur pourrait produire un grand changement. Balance.
Ah.
Oui, je sais. Il y a plusieurs aspects dans le ciel de cette semaine, mais je pense qu'un seul se fera remarquer, celui de Mars, qui crée des désaccords avec un partenaire.
Mmh. Ah, satané Mars.
Partenaire professionnel.
Partenaire autre.
Voilà. Ah bah, c'est la planète de la guerre. Hein, donc
aïe, 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 aïe.
Ouais.
Les scorpions.
Il y a de la rumba dans l'air avec la conjonction qui se prépare entre le soleil et Uranus et qui va créer des remous dans une association ou dans votre couple. Sagittaire, un ciel plutôt harmonieux pour l'ensemble du signe, même si même le troisième décan d'ailleurs voit Vénus s'échapper. Cela ne peut que vous inciter à remettre de l'ordre dans votre vie. Capricorne, deuxième et troisième décan, vous avez des belles énergies au service de votre image et il vous est conseillé de sortir le plus souvent possible de votre réserve cette semaine. Faites-vous remarquer.
Les Verseaux.
De belles énergies pour vous aussi venant du Bélier où se trouvent Mars et Mercure. Une chose est sûre, c'est que vous serez le meilleur polémiste du zodiaque. Poissons, une semaine sympathique pour le deuxième décan. Je ne sais pas, Tom.
Moi, je suis troisième.
Ah bon. Qui pas reçoit drôle, pourtant la visite de Saturne. Bah, vous allez recevoir la visite de Saturne.
Ah, super. Ouais. Je l'amenais, ouais, j'ai prévu les croissants.
Mais justement, la pleine lune va vous éclairer sur le problème qui vous préoccupe. Bélier, il n'y a plus que deux planètes dans votre signe cette semaine, dont l'une est plus forte que l'autre, Mars, bien sûr, qui accentue votre impulsivité. Alors ne prenez pas trop de risques.
Merci beaucoup, Christine. On vous retrouve évidemment au 3210.
Oui, et sur c'estlastro.com.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Philippe Cavrivière, tous les matins, juste avant 8h. Vendredi, il était face à Yonatan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France.
Alors, pour un humoriste, l'antisémitisme, c'est toujours un sujet difficile. C'est un peu comme Kenji Girac avec un flingue.
Oui.
C'est un truc qu'il faut faire gaffe en le maniant. À tout moment, tu peux te tirer une balle dans le buffet.
Yonatan Arfi est le petit-neveu d'Alfred Nakache, légende de la natation française, résistant et rescapé de la Shoah.
Qui était surnommé le nageur de Auschwitz. Spectacle extraordinaire avec Amir Ravercelli. C'est la classe d'avoir un oncle pareil. Moi, mon grand-oncle, c'était Alphonse Cavrivière. Celui que les Allemands surnommaient le Meyer Bear de Paris. Ah,
ils sont cachés en bas.
Alors, c'est pas le même destin. C'est pas le même destin qu'Alfred Nakache. Alors, Alfred Nakache est une légende de la natation. Il a survécu à Auschwitz. Il a défié les SS. En nageant, il nageait même dans le camp. Alors, je dis pas qu'il y avait des piscines dans les camps. Hein. C'était un bassin dégueulasse au fond du camp. Mais si aujourd'hui, on proposait à Alfred de se baigner dans la Seine, il dirait, bon, hé, les gars, j'ai eu des ralouettes à l'époque, mais faut pas abuser non plus. Je suis pas fou.
Philippe Cavrivière que vous retrouvez tout à l'heure en direct juste avant 8h. Marida, un temps très très agité partout.
Oui, à un moment ou l'autre de la journée, vous aurez une averse. En fait, il y a deux zones perturbées. Il y a une perturbation pluvieuse qui est en train de traverser le pays. Ça a commencé hier. Et là, en ce moment, elle se trouve du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA jusqu'à l'Occitanie. Donc vraiment des Pyrénées aux régions de l'Est avec des pluies assez soutenues, de la neige en